Hardigan. Hardigan présente Cthulhu, le mythe. H.P. Lovecraft. Lu par Nicolas Planchet. Celui qui hante les ténèbres. Dédié à Robert Bloch. J'ai vu béer l'abominable univers, où les noires planètes roulent sans but, où elles roulent dans leur horreur amère, sans avoir ni éclat, ni nom, sphère brute. Les enquêteurs prudents hésiteront à mettre en doute l'opinion largement répandue selon laquelle ce fut la foudre qui tua Robert Blake, ou bien un bouleversant choc nerveux provoqué par une décharge électrique. Certes, la fenêtre devant laquelle il se tenait était intacte, mais la nature s'est déjà montrée capable d'étranges phénomènes. L'expression de son visage pouvait très bien avoir une obscure origine musculaire, sans aucun rapport avec ce qu'il avait vu, tandis que les notes de son journal intime résultaient de toute évidence d'une imagination portée au fantastique, exacerbée par les légendes locales et les anciennes affaires qu'il avait découvertes. Quant aux éléments insolites de l'église abandonnée de Federal Hill, un observateur perspicace ne manquerait pas de les attribuer rapidement à une duperie, consciente ou non, à laquelle Blake, en partie du moins, était secrètement lié. Car après tout, la victime était un artiste, écrivain et peintre. Tout absorbé par le domaine du mythe, du rêve, de la terreur et de la superstition. Il recherchait avec avidité les lieux et manifestations à caractère bizarre ou spectral. Son séjour précédent dans notre cité, une visite rendue à un vieillard excentrique aussi versé que lui dans l'occulte et le savoir interdit, s'était soldée par la mort et les flammes, et ce doit être un instinct morbide qui l'a fait quitter sa demeure du Milwaukee pour revenir ici. Même s'il affirme le contraire dans son journal, il a fort bien pu entendre parler de vieilles histoires. Sa mort a peut-être tué dans l'œuf quelques stupéfiantes mystifications à visée littéraire. Néanmoins, parmi ceux qui ont examiné ces éléments et les ont mis en relation, plusieurs persistent à avancer des théories moins rationnelles et moins ordinaires. Ils tentent à prendre au sérieux l'essentiel du journal de Blake et rappellent avec insistance certains faits tels que l'indubitable authenticité du registre de la vieille église, l'existence avérée de la secte, impopulaire et hérétique, de la sagesse des étoiles jusqu'en 1877, la disparition attestée, en 1893, d'un journaliste d'investigation du nom d'Edwin M. Lillibridge. Et, par-dessus tout, l'expression de peur monstrueuse qui tordait les traits du jeune écrivain au moment de sa mort. C'est l'un des partisans de la théorie fantastique qui, poussé jusqu'au fanatisme, a jeté dans la baie la pierre aux angles insolites et la boîte en métal curieusement ouvragée découverte dans la flèche sombre et aveugle de l'ancien bâtiment, et non dans le clocher, où le journal de Blake affirme qu'elle se trouvait à l'origine. Bien que fortement critiqué en public comme en privé, cet homme, un médecin réputé avec un goût prononcé pour le folklore bizarre, a assuré avoir débarrassé notre monde d'un objet trop dangereux pour y demeurer. Entre ces deux camps, le lecteur devra lui-même trancher. Les journaux ont adopté l'approche sceptique pour exposer les faits concrets, laissant à d'autres le soin de brosser le tableau tel que Robert Blake l'appréhendait, croyait l'appréhender, ou prétendait l'appréhender. À présent, en étudiant de près ce journal, sans hâte et sans passion, tâchons de dérouler la sombre chaîne d'événements selon le point de vue de leur acteur principal. Le jeune Blake revint à Providence au cours de l'hiver 1934-1935 et s'installa au dernier étage d'une vénérable demeure située au milieu d'un terrain gazonné donnant sur Gollet Street, au sommet de la colline à l'est, non loin du campus universitaire de Brown et derrière le bâtiment en marbre de la bibliothèque John Hay. L'endroit était confortable et fascinant, entouré d'une véritable petite oasis de verdure évoquant les villages d'antan, où d'énormes chats débonnaires prenaient le soleil sur le toit d'une annexe bien pratique. La maison géorgienne de forme carrée comportait un lanterneau, une porte classique décorée de motifs en éventail, des fenêtres à petits carreaux et toutes les caractéristiques des constructions du début du XIXe siècle. À l'intérieur, on trouvait des portes à six panneaux, des parquets à larges lattes, un escalier courbe de style colonial, des manteaux de cheminée blancs de style baroque et, sur l'arrière, un ensemble de pièces situées trois marches plus bas que le reste. Le bureau de Blake, une grande pièce d'angle exposée sud-ouest, donnait d'un côté sur le jardin devant la maison, tandis qu'à l'ouest, les fenêtres devant l'une desquelles il avait installé son espace de travail offraient depuis le sommet de la colline une vue splendide de la ville basse, avec son étendue de toit et les magnifiques couchers de soleil qui enflammaient l'horizon derrière eux. Au loin, on apercevait les pentes mauves de la campagne sauvage. Un peu avant, à quelques 3 kilomètres, s'élevait la bosse fantomatique de Federal Hill, tout hérissée de toitures enchevêtrées et de flèches dont les silhouettes ondulaient mystérieusement dans le lointain et prenaient des formes fantasmagoriques quand les fumées urbaines les enveloppaient de leurs tourbillons. Blake éprouvait alors la curieuse impression de contempler un monde inexploré, éthéré, qui, comme en rêve, s'évanouirait peut-être ou peut-être pas, si jamais il voulait le rejoindre et y pénétrer. Ayant pris des dispositions pour faire transporter de son domicile précédent l'essentiel de sa bibliothèque, Blake acheta du mobilier ancien convenant au style de son appartement et entreprit d'écrire et de peindre. Il vivait seul et s'occupait lui-même de son peu de ménage. Son atelier se situait au nord, dans une pièce sous le toit où les fenêtres du lanterneau fournissaient une lumière parfaite. Au cours de ce premier hiver, il produisit 5 de ses nouvelles les plus connues. Celui qui creuse sous la terre, l'escalier de la crypte, Chagai, dans la vallée de Pnat, et le dévoreur venu des étoiles. Il peignait aussi 7 toiles, des études de monstres inhumains innommés, ainsi que des paysages extraterrestres, profondément différents de ceux de notre Terre. Au crépuscule, il s'asseyait souvent à son bureau pour rêvasser devant la vue s'offrant à l'ouest. Les sombres tours du Memorial Hall juste sous ses fenêtres, le beffroi du palais de justice de style géorgien, les bâtiments élevés du centre-ville, enfin, ce mont scintillant au loin, couronné de clochers dont les rues inconnues et l'enchevêtrement de pignons stimulaient tant son imagination. Ses quelques connaissances en ville lui avaient appris que ce distant flanc de la colline était un grand quartier italien, bien que la plupart des maisons là-bas aient été construites à l'origine par des Yankees et des Irlandais. Parfois, il dirigeait ses jumelles sur cet univers spectral, insaisissable, au-delà des volutes de fumée, s'attardait sur un toit, une cheminée ou une flèche en particulier, et s'interrogeait sur les ineffables mystères qu'il pouvait dissimuler. Même avec l'aide des jumelles, Federal Hill conservait son caractère irréductiblement étranger, presque fabuleux, qui n'était pas sans rappeler les intangibles et irréelles merveilles des contes et des tableaux créés par Blake. Cette impression persistait longtemps après que le paysage s'était fondu dans la nuit violette, où les lampes urbaines tenaient lieu d'étoiles, et que les projecteurs du palais de justice et l'enseigne rouge d'Industrial Trust, illuminés, avait rendu grotesque la beauté nocturne. De tous les bâtiments lointains de Federal Hill, c'était une immense église noire qui fascinait le plus Blake. Elle apparaissait avec une netteté toute particulière à certaines heures de la journée et, au coucher du soleil, la silhouette sombre du haut clocher et de sa flèche si pointue se découpait sur le ciel embrasé. La bâtisse semblait se dresser sur un terrain surélevé, car sa façade sale et le mur nord que l'on voyait de biais Avec son toit en pente ainsi que ses grandes fenêtres en ogive dont on ne distinguait que le haut, dominait entièrement l'imbroglio de faîtages et de cheminées alentour. Fort austère et revêche, elle apparaissait avoir été bâtie de pierre, tachée et burinée par un siècle ou plus d'exposition aux fumées et aux tempêtes. Son style architectural, pour autant que le révélaient les jumelles, correspondait à cette forme expérimentale de néo-gothique qui a précédé la majestueuse manière Upjohn et a conservé quelque chose des lignes et des proportions de l'époque géorgienne. Peut-être l'avait-on construite vers 1810 ou 1815. Les mois passant, Blake observait de loin cet édifice peu accueillant, mais qui lui inspirait un intérêt étonnamment croissant. Comme aucune lumière n'éclairait jamais ces vastes fenêtres, il le supposait désert. Plus il le regardait, plus son imagination s'enflammait, si bien que des idées bizarres commencèrent à le préoccuper. Ainsi, il croyait ressentir autour de cet endroit une vague et étrange aura de désolation, à tel point que les pigeons et les hirondelles lui paraissaient éviter ces avant-toits enfumés. Non loin d'autres tours ou beffrois, ces jumelles lui révélaient la présence d'importants rassemblements de volatiles, mais il ne se posait jamais sur l'église. Voilà du moins ce qu'il crut observer et inscrivit dans son journal. Il fit remarquer le monument à plusieurs de ses amis, mais aucun d'entre eux ne s'était jamais rendu à Federal Hill, ni n'avait la moindre idée de ce que représentait ou avait représenté cet ouvrage. Au printemps, Blake fut saisi d'une agitation maladive. Il avait entrepris l'écriture d'un roman auquel il pensait depuis longtemps, dont le sujet était la supposée survivance dans le Maine de cultes liés à la sorcellerie, mais se retrouvait curieusement incapable d'avancer dans son travail. Il lui arrivait de plus en plus souvent de s'asseoir devant l'une des fenêtres donnant à l'ouest, afin de contempler la lointaine colline et la noire flèche austère qu'évitaient les oiseaux. Quand les délicats bourgeons des arbres du jardin s'ouvrirent et que le monde s'emplit d'une beauté nouvelle, Blake ne s'en sentit que plus perturbé. C'est alors qu'il se mit à envisager de traverser la ville et de gravir lui-même la pente fabuleuse qui le mènerait à ce monde onirique enveloppé de fumée. Fin avril, peu de temps avant cette nuit de Valpurgis plongée dans l'ombre des éons, Blake se lança pour la première fois dans cet inconnu. Après avoir franchi d'interminables rues dans le centre-ville ainsi que de mornes places délabrées au-delà, il parvint enfin à la fameuse avenue en pente constituée de degrés usés par les siècles et bordée de maisons dont les vérandas ouvertes de style dorique s'affaissaient et dont les coupoles s'ornaient de vitres sales. Il pensait que son ascension le mènerait dans le monde inaccessible et mystérieux qu'il apercevait depuis si longtemps au-delà des brumes. Il vit des plaques de rue ternies, bleues et blancs, qui ne lui disaient rien, puis remarqua les visages exotiques des passants à la peau mate, ainsi que les enseignes en langue étrangère au-dessus de boutiques curieuses, situées dans des bâtiments brunis par des décennies d'exposition aux éléments. Il ne retrouvait nulle part ce qui l'avait frappé de loin, et cela parut confirmer la vague idée que la Federal Hill, vue depuis sa demeure, n'était qu'un rêve destiné peut-être à ne jamais subir le poids de pas humains. De temps en temps apparaissait la façade décrépite d'une église ou une flèche à moitié écroulée, mais ce n'était jamais l'édifice noirci qu'il recherchait. Quand il parla à un commerçant d'une grande église en pierre, l'homme sourit et se contenta de secouer la tête alors qu'il connaissait fort bien l'anglais. À mesure que Blake gravissait la pente, les lieux lui semblaient de plus en plus insolites, avec leurs labyrinthes étourdissants de sombres allées moroses menant inévitablement au sud. Il croisa deux ou trois boulevards et, à un moment, crut entrevoir une tour familière. Une fois de plus, il interrogea un commerçant au sujet de la massive église de pierre, et il aurait pu jurer feinte les protestations d'ignorance de son interlocuteur. Le visage mat de l'individu trahit malgré lui sa peur, et Blake le vit faire un signe bizarre de la main droite. Puis, soudain, une flèche noire se détacha sur sa gauche sur le ciel couvert, au-dessus des rangées de toits bruns qui bordaient les venelles enchevêtrées allant vers le sud. Blake la reconnut tout de suite et se rua dans sa direction à travers les ruelles sordides de terre battue qui montaient depuis l'avenue. Il se perdit deux fois, mais n'osa demander son chemin à aucun des patriarches ou des matrones assis sur le pas de leur porte, ni à aucun des enfants qui jouaient avec force cri dans la boue des chaussées ombreuses. Enfin, il vit nettement le clocher au sud-ouest, et une énorme masse de pierre s'élevait sinistrement au bout d'une allée. Bientôt, il se retrouva sur une place ouverte à tous les vents, au pavage pittoresque. Un haut mur de soutènement se dressait à l'autre bout. Blake était arrivé au bout de sa quête. Sur le large plateau cerné d'une clôture en fer et envahi de mauvaises herbes que supportait le remblai et qui constituait à lui seul un petit univers dominant de 2 mètres les rues alentour, se tenait un édifice titanesque et sinistre, dont l'identité ne faisait aucun doute en dépit de la perspective inédite sous laquelle l'écrivain le contemplait. L'église était dans un état de décrépitude totale. Certains de ses hauts contreforts de pierre s'étaient écroulés, et plusieurs délicates sculptures qui ornaient son toit gisaient sur le sol, à moitié cachées par les herbes brunes et les plantes sauvages qui poussaient. Les fenêtres gothiques, noires de suie, restaient pour l'essentiel intactes, alors qu'une grande partie des meneaux, en pierre eux aussi, manquaient. Blake se demanda comment les vitraux aux couleurs sombres pouvaient avoir si bien tenu, étant donné les habitudes bien connues des jeunes garçons du monde entier. Les portes massives paraissaient bien solides et résolument closes. Au sommet du mur de soutènement, et entourant l'ensemble du plateau, on voyait une grille en fer rouillé dont le portail, en haut d'une volée de marches qui partait de la place pavée, s'ornait ostensiblement d'un cadenas. L'allée qui menait de ce portail au bâtiment était complètement envahie par les mauvaises herbes. La désolation et la décadence voilaient l'endroit tel un linceul, et sous les avancées du toit où ne nichait aucun oiseau, le long des murs noircis sur lesquels ne grimpait aucun lierre, Blake ressentait une impression d'indéfinissable désastre. Il n'y avait que fort peu de gens sur la place. Mais le jeune homme aperçut un agent de police du côté nord et alla l'interroger sur l'église. Il s'agissait d'un grand et solide Irlandais, et Blake trouva curieux qu'il se contente en réponse de faire le signe de la croix en marmonnant que personne ne parlait jamais de ce bâtiment. Quand l'écrivain insista, l'homme ajouta avec l'air de vouloir en finir rapidement que le prêtre italien du quartier avait mis tout le monde en garde contre cette église, jurant qu'un mal épouvantable avait autrefois été pratiqué en ces lieux et y avait laissé son empreinte. Lui-même avait entendu son père faire sombrement allusion, à mi-voix, à des sons ou des rumeurs datant de sa propre enfance. Une secte maléfique avait sévi là dans le temps, une secte interdite qui appelait des êtres atroces à sortir d'un gouffre noir inconnu. Il avait fallu un prêtre exorciste vraiment doué pour chasser ceux qui avaient répondu à l'appel, même si d'aucuns prétendaient que la lumière avait suffi. Et si le père O'Malley avait été encore en vie, il aurait pu en dire long, mais à présent, il suffisait de se tenir à l'écart de ce lieu qui ne faisait plus de mal à personne, car ses propriétaires étaient morts ou partis au loin. Ils s'étaient enfuis comme des rats après qu'on les eut menacés de représailles en 1877, quand les habitants avaient commencé à s'inquiéter de certaines disparitions dans le voisinage. Un jour, la ville prendrait possession du domaine par faute d'héritier, mais rien de bon ne pouvait sortir de l'endroit. Il valait mieux ne pas y toucher et laisser les années l'abattre, au risque sinon d'éveiller des monstres qui devraient demeurer pour toujours endormis au fond de leur abysse sans lumière. L'agent s'éloigna et Blake resta à regarder le clocher morne coiffé de sa flèche. Il trouvait très intéressant que le sinistre de la structure en ait frappé d'autres que lui, et se demanda quelle part de vérité recelaient les vieilles histoires rapportées par le policier. Sans doute ne s'agissait-il que de légendes nées de l'aspect maléfique du bâtiment. Mais, même si tel était le cas, elle lui évoquait étrangement l'un de ses propres récits qui aurait pris vie. Le soleil de l'après-midi surgit entre les nuages qui s'effilochaient, mais sembla incapable d'illuminer les murs noirs de suie du vieil édifice religieux qui, du haut de son vaste plateau, dominait la place. Curieusement, le vert du printemps n'avait pas touché les plantes brunes et flétries qui poussaient dans la cour derrière la grille. Blake se surprit à se rapprocher de cette zone surélevée et à examiner le mur la soutenant ainsi que la clôture rouillée, dans le but d'y trouver une ouverture par laquelle se faufiler. Ce lieu de culte exerçait sur lui une puissante force d'attraction à laquelle il ne pouvait résister. La grille ne révéla aucune ouverture praticable à proximité de l'escalier, mais, sur le côté nord, des barreaux manquaient. L'écrivain pouvait monter les marches et longer la grille de l'extérieur sur son étroite bordure jusqu'à parvenir à ce trou. Si les gens craignaient à ce point la bâtisse, nul ne s'interposerait. Il atteignit la grille, puis sa brèche, sans que personne le remarque. Mais alors qu'il s'apprêtait à se glisser de l'autre côté, il jeta un coup d'œil en bas et vit les quelques personnes présentes sur la place s'écarter en effectuant de leur main droite le même signe que celui du commerçant de l'avenue. Plusieurs fenêtres furent fermées en claquant et une femme obèse se précipita dehors avant d'entraîner quelques bambins à l'intérieur d'une maison branlante en bois brut. Blake se faufila aisément entre les barreaux et ne tarda pas à se frayer un chemin au milieu des broussailles emmêlées et pourrissantes de la plateforme déserte. Ça et là, le sommet usé d'une pierre tombale lui indiquait que l'on avait procédé à des enterrements en ce lieu, mais que cela avait dû se passer dans des temps reculés. La masse impressionnante de l'église devenait oppressante d'aussi près, mais le jeune homme surmonta son appréhension et s'approcha davantage pour essayer d'ouvrir les trois grandes portes de la façade. Elles étaient toutes solidement verrouillées. Aussi entreprit-il d'effectuer le tour du gigantesque édifice en quête d'une issue secondaire plus accessible. Même alors, il n'était pas si sûr de vouloir pénétrer en ce domaine, voué à la solitude et aux ombres. Pourtant, l'attrait de l'insolite le poussait machinalement à agir. Un soupirail béant, à l'arrière, lui fournit l'ouverture souhaitée. Blake regarda à l'intérieur et vit un gouffre souterrain envahi par les toiles d'araignée et la poussière, faiblement éclairé par les rayons tamisés du soleil à l'ouest. Il distingua des débris divers, de vieux tonneaux, des caisses éventrées et des meubles de toutes sortes, malgré la poussière qui recouvrait tout et adoucissait les angles. Les restes corrodés d'un calorifère lui indiquaient que le bâtiment avait servi et était entretenu jusqu'au milieu du règne de la reine Victoria. Agissant sur une impulsion presque inconsciente, Blake rampa par cette issue et se laissa tomber sur le sol en ciment, tapissé de poussière et jonché de débris. La cave voûtée était vaste, sans cloison séparatrice. Loin sur la droite, dans un angle chargé d'ombre profonde, l'écrivain vit une ouverture en arche qui devait mener à un escalier. Il ressentait une sorte de malaise très particulier à la pensée de se trouver pour de bon à l'intérieur de l'immense construction fantomatique. Mais il se domina et entreprit d'explorer les lieux avec circonspection. Il trouva une barrique encore intacte, sous son voile de saleté, et la fit rouler jusqu'au soupirail pour assurer sa sortie. Puis il rassembla son courage et traversa le grand espace festonné de toiles d'araignée en direction de l'arche repérée plus tôt. À moitié suffoqué par la poussière omniprésente, recouvert de fils arachnéens d'une finesse spectrale, il atteignit l'escalier de pierre usée qui s'élevait dans l'obscurité et commença à le gravir. Comme il n'avait pas d'éclairage, il avançait à tâtons. Après un virage serré, il sentit une porte close devant lui. Quelques tâtonnements supplémentaires lui permirent de faire jouer l'antique loquet. Le battant s'ouvrit vers l'intérieur de l'église, révélant un couloir plongé dans la pénombre, dont les murs étaient recouverts de boiseries vermoulues. Une fois au rez-de-chaussée, Blake ne traîna pas pour l'explorer. Les portes intérieures étaient toutes déverrouillées, de sorte qu'il put passer sans encombre de pièce en pièce. La nef colossale se révéla être un lieu presque surnaturel. avec ses congères et monts de poussière empilés sur les stalles, l'autel, la chaire en forme de sablier et son abat-voix, avec ses titanesques cordages en soie d'araignée, s'étirant entre les voûtes en ogive de la galerie, s'entortillant autour des colonnes gothiques. Sur toute cette désolation silencieuse planait une hideuse lumière plombée, issue des rayons du soleil déclinant de la fin de journée, qui passait à travers les étranges vitraux, à demi noircis, des grandes fenêtres absidales. Les vitraux de ces fenêtres étaient tellement recouverts de suie que Blake pouvait à peine discerner ce qu'ils représentaient. Mais le peu qu'il en distinguait ne lui plaisait pas. Les dessins paraissaient des plus conventionnels, mais la connaissance qu'avait l'écrivain du symbolisme caché lui permettait de lire beaucoup de choses dans ces anciens motifs. Les quelques saints représentés arboraient des expressions franchement douteuses, tandis que l'une des fenêtres ne montrait, semblait-il, qu'un espace noir semé de spirales d'une luminosité étrange. Se détournant de ses vitraux, Blake remarqua que la croix au-dessus de l'autel, évidemment décorée de toiles d'araignée, n'avait pas la forme habituelle. Elle ressemblait à l'ancre primordiale, le crux ansata de la ténébreuse Égypte. À l'arrière, dans une sacristie située à côté de l'abside, Blake trouva un bureau vermoulu ainsi que des étagères hautes jusqu'au plafond, remplies de livres moisis en cours de désintégration. C'est là que, pour la première fois, il éprouva un pur choc d'horreur objective, car les titres de ces volumes se révélèrent très parlants pour lui. Là reposaient les noirs ouvrages interdits dont la plupart des gens sains d'esprit n'ont jamais entendu parler, ou seulement par de furtives allusions timidement chuchotées. Là se tenaient les dépositaires bannis et craints de secrets équivoques et de formules immémoriales ayant suivi le flux du temps depuis la naissance de l'humanité, voire depuis l'ère mystérieuse et fabuleuse précédant son avènement. L'écrivain, pour sa part, avait lu nombre de ces tomes. Une version latine de l'aboré Necronomicon, le sinistre Liber Ivonis, le culte des goules du comte Erlette à la renommée redoutable, les Unausprechlichtenkulten de Van Junts, enfin l'infernal De Vermis Mysteriis de Ludwig Prin. Pour d'autres, il ne les connaissait que de réputation, ou pas du tout. Les manuscrits pnacotiques, le livre de Dzian, et un volume qui s'effritait rempli de caractères impossibles à identifier, mais contenant certains symboles et diagrammes évocateurs pour le jeune homme versé en sciences occultes qui en frémit. De toute évidence, les rumeurs locales persistantes n'avaient pas menti. Cet endroit avait autrefois abrité un mal plus ancien que l'humanité et plus vaste que l'univers connu. À l'intérieur du bureau en ruine, un petit registre relié en cuir était rempli de notations manuscrites couchées dans un étrange alphabet crypté qui comportait les symboles habituels utilisés de nos jours en astronomie, autrefois employés en alchimie, en astrologie et en d'autres arts douteux. Blake identifia des schémas évoquant le soleil, la lune, les planètes, les aspects et les signes du zodiaque. Il formait des blocs de texte dont les séparations et la construction des paragraphes suggéraient qu'à chacun de ces caractères correspondait une lettre. Dans l'espoir de résoudre par la suite ce cryptogramme, Blake glissa l'ouvrage dans la poche de sa veste. Beaucoup des volumes imposants sur les étagères le fascinaient plus qu'il n'aurait su dire, et il eut la tentation de revenir les chercher par la suite. Il se demanda comment ils avaient pu rester si longtemps en ce lieu sans que l'on s'en empare. Était-il donc le premier à avoir surmonté cette crainte oppressante et prégnante qui avait pendant presque 60 ans tenu les visiteurs à l'écart de ce bâtiment désert? Après avoir exploré avec soin le rez-de-chaussée, Blake se fraya de nouveau un chemin dans la poussière de la nef spectrale, jusqu'à l'entrée de l'église, où il avait aperçu une porte et une volée de marches menant vraisemblablement au clocher noirci et à sa flèche, les deux éléments devenus pour lui à distance si familiers. L'ascension s'avéra éprouvante, car il crut étouffé à cause de l'épaisse couche de saleté et des araignées qui, dans cet espace réduit, s'étaient déchaînées avec leur toile. Le raide escalier en colimaçon présentait d'étroits degrés de bois. De temps en temps, le jeune homme passait devant une fenêtre voilée de poussière qui offrait une vue vertigineuse sur la ville. Il n'avait pas remarqué de corde en bas, mais pensait tout de même découvrir une cloche ou un carillon au sommet de cette tour dont il avait si souvent étudié, grâce à ses jumelles, les étroites fenêtres en ogive et les abat-sons. En l'occurrence, une déception l'attendait, puisqu'une fois en haut des marches, il découvrit une salle dépourvue de la moindre cloche. On l'avait d'évidence vouée à un usage tout différent. La pièce, d'une surface d'environ 6 mètres carrés, était faiblement éclairée par 4 fenêtres en ogive, une sur chaque côté, aux vitres abritées par des abat-sons en mauvais état. On avait en outre fixé sur ces derniers des plaques pleines en bois, mais elles avaient pourri. Au milieu du plancher croulant sous la poussière, se dressait un pilier de pierre à l'aspect insolite. D'un peu plus d'un mètre de hauteur et d'environ 50 centimètres de largeur. Chacune de ses faces était couverte de bizarres hiéroglyphes gravés et de grossières factures, complètement impossibles à identifier. Sur cette colonne était posée une boîte en métal de forme très particulière, asymétrique, le couvercle à charnière grand ouvert. À l'intérieur se trouvait ce qui avait tout l'air d'être, sous la poussière de plusieurs décennies, un objet ovoïde ou plus ou moins sphérique d'une 10 centimètres de diamètre. Autour du pilier étaient disposées en un vague cercle 7 chaises au haut dossier de style gothique, encore en assez bon état, contrairement aux 7 statues colossales de plâtre peint en noir à moitié écroulées, qui s'alignaient derrière les sièges, le long des murs aux sombres boiseries. Ces statues évoquaient plus que toute autre chose les mystérieux mégalithes sculptés de l'étonnante île de Pâques. Dans un coin de cette salle chargée de toiles d'araignées, une échelle creusée dans le mur menait à la trappe fermée de la flèche aveugle au-dessus. Lorsque les yeux de Blake se furent accoutumés à la pénombre, il remarqua des bas-reliefs curieux sur cette étrange boîte de métal jaunâtre. Il s'en approcha, s'efforça de l'épousseter de ses mains et de son mouchoir, et vit qu'il s'agissait de représentations d'entités monstrueuses et étrangères à l'espèce humaine. Ces êtres, bien qu'apparemment doués de vie, ne ressemblaient à aucune des formes organiques connues ayant jamais évolué sur notre planète. Ce qui lui avait paru une sphère de 10 centimètres de diamètre se révéla être en fait un polyèdre très foncé, strié de rouge, pourvu de nombreuses et irrégulières facettes planes. C'était soit un cristal remarquable, soit un objet artificiel façonné dans une matière minérale que l'on avait soigneusement polie. L'objet ne touchait pas le fond de son écrin, mais restait en suspens grâce à une bande de métal qui le saignait, attachée en haut de la boîte, aux angles de sa paroi interne, par 7 supports horizontaux d'une conception insolite. Cette pierre, une fois nettoyée, exerça sur le jeune homme une fascination presque alarmante. Il avait grand-peine à en détacher les yeux et, tandis qu'il admirait cette surface luisante, il se l'imagina transparente, recelant des mondes emplis de merveilles à peine ébauchées. Dans son esprit défilèrent des images d'orbes lointains sur lesquelles s'élevaient d'immenses tours de pierre, d'autres couverts de monts titanesques sans aucune trace de vie, ou d'espaces plus inaccessibles encore, où seule une vague agitation dans l'obscurité trahissait la présence d'une conscience, d'une volonté. Quand enfin il détourna les yeux, ce fut pour remarquer un tas de poussière à l'aspect quelque peu inhabituel, à l'autre bout de la pièce, non loin de l'échelle permettant d'accéder à la flèche. Pourquoi au juste cet élément avait ainsi attiré son attention? Il n'en savait rien, mais quelque chose dans sa forme générale avait alerté son inconscient. Se frayant un chemin, il s'avança vers le monticule en écartant au passage les toiles d'araignée qui pendaient, et commença à discerner quelque chose de macabre. Sa main et son mouchoir ne tardèrent pas à révéler la vérité. Blake, submergé par un mélange déconcertant d'émotions, poussa un cri bref. Il avait devant lui un squelette humain qui devait se trouver là depuis fort longtemps. Les vêtements qui le recouvraient étaient en lambeaux, mais quelques boutons et fragments de tissu permettaient de les identifier comme les restes d'un costume masculin gris. D'autres indices se présentaient, des chaussures, des boucles de métal, d'énormes boutons ronds de manchette, une épingle de cravate démodée, un badge de journaliste portant le nom de l'ancien Providence Telegram. Enfin, un portefeuille en cuir tout moisi. L'écrivain examina ce dernier avec le plus grand soin. Il en sortit plusieurs factures à la date d'échéance passée depuis des lustres, un petit calendrier publicitaire en celluloïde pour l'année 1893, des cartes de visite au nom de Edwin M. Lillibridge. Enfin, un papier couvert de notes au crayon. Cette feuille avait de quoi étonner. Blake la lut avec attention à la chiche lumière entrant par la fenêtre ouest. Le texte consistait en phrases isolées telles que « Prof. Enoch Bowen rentre d'Égypte en 1844, achète en juillet la vieille église du libre-arbitre. Ses travaux archéologiques et recherches dans l'occulte sont réputés. Docteur Drone, pasteur baptiste, prévient ses ouailles du danger de la sagesse des étoiles dans son sermon du 29 décembre 1844. Congrégation, 97 membres, fin 45. 1846, trois disparitions. Première mention du trapézoèdre luisant. Cette disparition, 1848. Début des rumeurs au sujet de sacrifices humains. Enquête de 1853 ne débouche sur rien. Rumeur de bruit bizarre. Frère O'Malley parle d'un culte du démon avec une boîte trouvée dans les grandes ruines égyptiennes. Dit qu'ils invoquent un être qui ne peut supporter la lumière. Il fuit une faible clarté et bannit s'y illuminer. Il faut alors l'invoquer de nouveau. A sans doute obtenu ces informations sur le lit de mort de Francis X. Finet, membre de la sagesse des étoiles depuis 1849. La secte prétend que le trapézoèdre luisant montre paradis et autre monde. Celui qui hante les ténèbres révèle, comment, des secrets. Histoire d'Orin B. Eddy, 1857. Il l'invoque en regardant le cristal et les initiés ont un langage à eux. Plus de 200 dans congrégation en 1863, sans compter les hommes au front. Jeune Irlandais met à sac l'église en 1869, après disparition Patrick Reagan. Article avec allusion dans le journal le 14 mars 72. Mais personne ne parle. Six disparitions en 1876. Un comité secret rend visite au maire Doyle. Promesse d'engager une action en février 1877. Église ferme en avril. Bande de jeunes gens de Federal Hill menace en mai le docteur et ses acolytes. 181 personnes quittent la ville avant fin 77, ne pas donner de nom. Histoire de fantômes commence à se répandre vers 1880. Tâchez vérifier rumeur, comme quoi personne ne serait entré dans l'église depuis 1877. Demandez à Lanigan la photo du lieu prise en 1851. Blake replaça le papier dans le portefeuille, glissa ce dernier dans sa poche et se tourna vers le squelette gisant dans la poussière. Les notes ne laissaient pas de place au doute. L'homme qui les avait écrites était entré 42 ans auparavant dans l'église abandonnée, en quête d'un article à sensation que nul autre n'avait osé envisager. Peut-être n'avait-il prévenu personne de ses intentions, comment savoir? En tout cas, il ne s'était jamais représenté à son journal. La peur qu'il avait si courageusement réprimée avait-elle fini par le submerger au point de provoquer une crise cardiaque foudroyante? Le jeune homme se pencha de plus près sur les eaux qui luisaient dans la pénombre et remarqua leur aspect insolite. Certains avaient été dispersés avec violence. Quelques-uns paraissaient avoir souffert d'une étonnante dissolution à leurs extrémités, et d'autres encore avaient jauni de manière bizarre, comme s'ils avaient brûlé. Les fragments d'étoffe semblaient avoir roussi également par endroits. L'état du crâne, enfin, avait de quoi surprendre. Jauni lui aussi. Il présentait à son sommet un trou au bord noirci, comme si un acide corrosif avait dévoré l'os. Blake ne pouvait imaginer les avanies subies par la dépouille au cours des 4 décennies passées dans sa tombe silencieuse. Il ne se rendit pas compte qu'il se remettait à contempler la pierre et qu'il laissait l'étrange influence de cette dernière éveiller dans son esprit un nébuleux spectacle. Il crut voir des processions de silhouettes vêtues de robes encapuchonnées, mais qui n'avaient rien d'humain. Il admira des étendues désertiques infinies, bordées de monolithes gravés qui s'élevaient jusqu'au ciel, les murs de hautes tours dressés dans les profondeurs obscures de la mer, des vortex spatiaux où des volutes de brume noire flottaient devant un froid brouillard violet au chatoiement subtil. Au-delà de ces merveilles, il devina un gouffre de ténèbres sans fin, où la présence de formes solides ou semi-solides n'était perceptible que par leur balancement dans le vent, où de vagues forces semblaient imposer un ordre au chaos et posséder la clé de tous les paradoxes et de tous les arcanes des mondes connus. Puis tout d'un coup l'enchantement fut rompu, remplacé par une bouffée de peur panique, sans objet apparent mais dévorante. Blake, suffoqué, se détourna du cristal, conscient que non loin de lui un être amorphe, irrémédiablement étranger, l'examinait avec une atroce intensité. Il se sentit mêlé à quelque chose hors de la pierre, mais qui s'en était servi pour le voir à travers elle, quelque chose qui désormais le suivrait sans relâche, grâce à un sens autre que la vue. De toute évidence, cet endroit affectait ses nerfs, ce qui n'avait rien d'étonnant eu égard à sa macabre découverte. Par ailleurs, la lumière du jour faiblissait. Comme il n'avait pas apporté de quoi s'éclairer, il savait qu'il allait devoir bientôt s'en aller. C'est alors, tandis que s'amassaient les ombres du crépuscule, que Blake crut percevoir une faible luminosité dans le cristal aux angles d'aimant. Il avait tenté d'en détacher le regard, mais un noir attrait l'y ramenait sans cesse. Émanait-il de cet objet une subtile phosphorescence radioactive? Que disaient les notes du cadavre déjà à propos d'un trapézoèdre luisant? Enfin, quel était donc cet antre abandonné voué à un mal cosmique? Quels actes avait-on commis ici? Quel être pouvait encore se tapir dans cette pénombre dont les oiseaux se tenaient à l'écart? Il semblait à présent au jeune homme qu'une nuance fétide salissait l'atmosphère, même s'il n'en identifiait pas la source. L'écrivain saisit le couvercle de la boîte ouverte depuis si longtemps et le rabattit sèchement. La partie mobile bougea sans heurts sur ses gonds insolites et se referma sans aucun décalage sur le cristal qui luisait bel et bien. L'opération produisit un claquement net, auquel sembla répondre un bruissement doux provenant de l'éternelle obscurité de la flèche, juste au-dessus de la trappe. Des rats, bien sûr. Les seules créatures vivantes à avoir manifesté leur présence dans cet édifice maudit depuis que Blake y avait pénétré. Pourtant, cette faible rumeur suffit à épouvanter le jeune homme. Il dévala comme un fou l'escalier en colimaçon, traversa en courant la nef effroyable, s'engouffra dans la cave voûtée et sortit enfin dans l'obscurité du crépuscule recouvrant la place déserte. Puis il descendit les venelles et les avenues grouillantes de monde de Federal Hill, peuplées d'une foule craintive, jusqu'aux rues saines du centre-ville et aux trottoirs de briques familiers du quartier universitaire. Pendant les jours qui suivirent, Blake ne parla à personne de son expédition, mais parcourut assidûment certains ouvrages, alla consulter en ville les archives de divers journaux sur de nombreuses années, se consacra au déchiffrement fébrile du texte crypté dans le registre en cuir qu'il avait pris dans la sacristie infestée de toiles d'araignée. Il comprit vite que le code n'avait rien d'évident. Après beaucoup d'efforts, il acquit la certitude que la langue de ses écrits ne pouvait être ni l'anglais, ni le latin, ni le grec, ni le français, ni l'espagnol, ni l'italien, ni l'allemand. Manifestement, il allait devoir puiser aux sources les plus profondes de son érudition portée sur l'insolite. Tous les soirs lui revenait sa vieille envie de regarder vers l'ouest, et, comme avant, il voyait la tour noire se dresser au-dessus des toits hérissés d'un monde distant, à demi fabuleux. Mais désormais, elle lui inspirait une note inédite de terreur. Il savait quel héritage de savoir maléfique elle recelait, et, sachant cela, sa vision lui jouait d'étranges nouveaux tours. Les oiseaux de la belle saison étaient revenus. Observant leur vol au crépuscule, il avait l'impression qu'ils évitaient plus que jamais la flèche émaciée, isolée. Quand une volée d'entre eux s'en approchait, elle virait, croyait-il, se dispersait comme saisie de panique, de confusion, et il croyait entendre les piaillements effarouchés qui ne pouvaient cependant lui parvenir à cette distance. C'est en juin que Blake signale dans son journal qu'il est venu à bout du cryptogramme. Il avait fini par établir que le texte était écrit dans l'obscure langue Aklo, usitée par certains cultes maléfiques de l'Antiquité, et que des recherches précédentes lui avaient fait plus ou moins connaître. Le jeune homme se montre étrangement réticent à inscrire dans son journal la teneur exacte de ce qu'il a déchiffré. Mais il est manifeste que ces révélations le déroutent et l'effraient. Il fait référence à « celui qui hante les ténèbres », un être que l'on veille en contemplant les profondeurs du trapézoèdre luisant, et émet des conjectures frôlant la folie sur les noirs abysses du chaos d'où il sort lorsqu'on l'invoque. Cet être saurait toute chose et exigerait de monstrueux sacrifices. Certains passages du journal de Blake témoignent de sa hantise que la chose s'échappe. Il semble tenir pour acquis sa présence effective dans notre monde à la suite d'une invocation, mais il ajoute que l'éclairage urbain constitue un rempart infranchissable pour elle. Il parle beaucoup du trapézoèdre luisant, désigné comme une fenêtre ouverte sur tous les temps et tous les univers, et retrace son histoire depuis l'époque où il a été façonné sur l'obscur Yugot, bien avant que les grands anciens la portent sur Terre. Ce sont les êtres échinodermes de l'Antarctique qui le placèrent dans son étrange écrin et le vénérèrent avant que les hommes-serpents de Valusia le récupèrent dans leurs ruines. Des éons plus tard, en Lémurie, les premiers humains le contemplèrent. Il traversa bien des terres étranges et des mers plus étonnantes encore, coula avec l'Atlantide, avant qu'un pêcheur minoen le prenne dans ses filets et le vende au marchand basané de Kem la Maléfique. Le pharaon Nefrenka construisit pour lui, autour de lui, un temple doté d'une crypte entièrement obscure, puis commit l'abomination qui lui valut l'effacement de son nom de tous les monuments et écrits. Par la suite, l'objet reposa dans les ruines de son ignoble lieu de culte, dont les prêtres et le nouveau pharaon avaient ordonné la destruction. Ceci jusqu'à ce que des fouilles archéologiques l'exhument une fois de plus pour le malheur de l'humanité. Au début du mois de juillet, des articles de journaux viennent curieusement enrichir les notes de Blake, mais par des entrefilets si banals en apparence que seuls les écrits du jeune homme permettent de comprendre leur relation avec l'affaire. Il semblait que depuis qu'un étranger s'était introduit dans l'église redoutée, Federal Hill soit de nouveau en proie à la terreur. Les Italiens parlaient à mots couverts d'une agitation inhabituelle dans la flèche aveugle, comme des chocs, des raclements. Ils demandaient à leurs prêtres de bannir l'entité qui hantait leurs songes. Il y avait quelque chose, disait-il, guettant sans trêve derrière les portes de l'église en attendant qu'il fasse assez noir pour s'aventurer dehors. La presse mentionne les superstitions locales sévissant de longue date, mais n'apporte guère d'éclaircissement sur les origines de cette épouvante. De toute évidence, les jeunes reporters de notre époque ne s'intéressent guère au passé. En inscrivant tout cela dans son journal, Blake exprime en outre un remords insolite et considère qu'il est de son devoir d'enterrer quelque part le trapézoèdre luisant. de bannir l'être qu'il a invoqué en laissant la lumière du jour pénétrer dans l'affreuse flèche pointue. Toutefois, dans le même temps, il insiste sur la dangereuse fascination que le cristal exerce encore sur lui, et avoue éprouver une envie morbide, prégnante jusque dans ses rêves, de retourner dans cette tour maudite, d'admirer une fois de plus les secrets cosmiques que renferme la pierre lumineuse. Ce fut durant cette période qu'un article du journal datant du 17 juillet jeta l'écrivain dans une véritable fièvre d'horreur. Il ne s'agissait que de l'un de ces nombreux articles au ton plus ou moins facétieux concernant l'inquiétude qui prévalait sur Federal Hill. Mais Blake y vit quelque chose d'inexprimablement atroce. Dans la nuit, la foudre avait mis hors service le système d'éclairage urbain pendant une bonne heure et, durant cette période d'obscurité, les Italiens du quartier étaient devenus presque fous de terreur. Ceux qui habitaient à proximité de l'église effroyable juraient que l'être dans la flèche avait profité de l'extinction des lampadaires pour descendre dans la nef, bousculant les bancs et promenant partout son abominable corps visqueux. Pour finir, la créature était remontée dans la tour en se heurtant au mur et on avait entendu des bruits de verre brisé. Elle pouvait se rendre partout où régnaient les ténèbres, mais la lumière la faisait toujours fuir. Lorsque le courant avait été rétabli, un monstrueux vacarme avait retenti dans le clocher. Même la faible lueur qui filtrait à travers les fenêtres à bassons couvertes de suie se révélait trop forte pour cette chose. Elle avait rampé dans sa flèche obscure en se cognant encore partout et juste à temps, car un éclairage prolongé l'aurait renvoyée droit dans l'abysse d'où l'avait extraite l'inconnu inconscient. Au cours de cette heure si noire, une foule en prière s'était assemblée autour de l'église sous la pluie, munie de lampes et de bougies allumées, plus ou moins protégées par des journaux pliés ou des parapluies, afin de constituer une digue lumineuse destinée à protéger la cité du cauchemar tapis dans les ténèbres. À un moment, avaient déclaré les personnes les plus proches de l'église, la porte extérieure de l'édifice avait hideusement tremblé sur ses gonds. Mais ce n'était pas ce qui s'était produit de pire. Le même soir, dans le bulletin, Blake lut ce que les journalistes avaient découvert. Ayant finalement pris conscience que la peur générale pouvait fournir la matière d'un article d'intérêt local, deux d'entre eux avaient défié la foule d'Italiens frénétiques et pénétré dans l'église en se faufilant par le soupirail de la cave après avoir en vain essayé d'ouvrir une porte. Ils avaient remarqué que la poussière du vestibule et de la nef spectrale avait été balayée de manière bizarre, que l'on avait sans but apparent dispersé un peu partout des coussins pourris et le rembourrage en satin des bancs. Une mauvaise odeur imprégnait l'atmosphère et on voyait çà et là des taches jaunes, des endroits plus ou moins brûlés. Les explorateurs avaient ouvert la porte qui menait au clocher et s'étaient arrêtés un instant, parce qu'ils avaient cru entendre un raclement au-dessus. Puis ils avaient gravi l'escalier en colimaçon, où, là encore, la poussière avait été plus ou moins essuyée. Au sommet, la pièce semblait elle aussi avoir été à moitié balayée. Les journalistes parlaient d'un pilier heptagonal en pierre, de chaises gothiques renversées, d'étranges sculptures de plâtre, mais curieusement, il ne mentionnait ni la boîte en métal, ni le vieux squelette abîmé. Ce qui perturba le plus Blake, outre l'allusion aux taches, aux plaques roussies et à la mauvaise odeur, ce fut le détail ultime qui expliquait les bris de verre. Toutes les fenêtres en ogive du clocher avaient été cassées, et deux d'entre elles aveuglées à la hâte, avec brutalité. En calant dans les intervalles situés entre les lamelles de bois des abat-sons, du rembourrage de satin venu des salles en bas et du crâne cheval arraché à la garniture des coussins. D'autres morceaux de satin et des touffes de crin gisaient en vrac sur le sol récemment balayé, comme si quelqu'un avait été interrompu alors qu'il s'appliquait à replonger la tour dans l'obscurité absolue qui y régnait, à l'époque où ses fenêtres étaient entièrement obstruées. Il y avait également des taches et des plaques roussies sur l'échelle conduisant à la flèche aveugle. Mais quand l'un des reporters y monta, ouvrit la trappe en la faisant coulisser horizontalement et perça du rayon ténu d'une lampe de poche l'espace noir étrangement fétide, il ne vit rien que l'obscurité et un tas de débris informes près de l'ouverture. Bien sûr, les journalistes avaient conclu à une mystification. Quelqu'un avait joué le mauvais plaisant aux dépens des superstitieux habitants du quartier, ou alors un fanatique s'était efforcé de les effrayer davantage, soi-disant pour leur bien. Ou encore, certains de ces mêmes habitants, plus jeunes et moins frustes, avaient monté une imposture complexe destinée à tromper le monde extérieur. Il y eut une suite amusante à cette enquête, quand la police décida d'envoyer un agent dans l'église pour vérifier les déclarations des journalistes. Trois hommes à la suite trouvèrent de mauvais prétextes pour échapper à cette mission, et le quatrième l'accomplit avec la plus grande réticence. Il en revint très vite sans rien ajouter aux témoignages antérieurs. À partir de ce moment, le journal de Blake témoigne d'une vague d'horreur insidieuse et d'appréhension nerveuse croissante. Il se reproche de ne pas agir et s'interroge fiévreusement sur les conséquences d'une autre panne de courant. Il a pu être établi qu'en trois occasions distinctes, au cours d'orage, il avait passé des coups de téléphone affolés à la compagnie d'électricité et demandé que toutes les précautions soient prises pour éviter une coupure. De temps en temps, ses notes révèlent son inquiétude à la pensée que les reporters, lors de leur exploration de la pièce obscure en haut de la tour, n'aient trouvé ni la boîte en métal avec le cristal, ni l'ancien squelette étrangement marqué. Il supposait que ces objets avaient été déplacés, où et par quelle entité, il en restait réduit aux conjectures. Mais ses pires craintes concernaient sa propre sécurité. À cause de l'espèce de relation infernale qu'il sentait exister entre son esprit et l'horreur tapie à distance dans la flèche de l'église. L'être monstrueux issu de la nuit que son imprudence avait arraché aux espaces de noirceur ultime. Il semblait éprouver un tiraillement constant sur sa volonté, et ceux qui lui rendirent visite pendant cette période se rappellent l'avoir vu assis, l'air absent à son bureau, devant la fenêtre ouest, les yeux rivés sur la colline lointaine surmontée de sa flèche, voilée par les tourbillons de fumée urbaine. Son journal insiste de façon monotone sur certains rêves terribles et sur le renforcement dans son sommeil de son hideux lien avec la chose. Il mentionne une nuit où il s'est réveillé pour se retrouver dans la rue, habillé de pied en cap, descendant comme un somnambule la pente de College Hill en direction de l'ouest. Il répète à de multiples reprises que la créature dans l'église sait où le trouver. La semaine suivant, le 30 juillet, est celle où Blake souffrit d'un début d'effondrement nerveux. Il ne s'habillait plus et commanda tous ses repas par téléphone. Des visiteurs remarquèrent qu'il avait des cordes non loin de son lit, et il leur expliqua que ses crises de somnambulisme avaient atteint des proportions telles qu'il devait se lier les chevilles chaque nuit à l'aide de nœuds assez solides pour qu'il ne puisse les défaire, ou qu'au moins l'effort nécessaire à se libérer le réveille. Dans son journal, il parle de l'affreuse expérience qui a provoqué chez lui cet effondrement. Après s'être couché la nuit du 30 juillet, il s'était soudain retrouvé à tâtonner dans un espace presque entièrement noir. Il ne parvenait à distinguer que de courts et étroits raies horizontaux de lumière bleuâtre, mais une odeur pestilentielle imprégnait ses narines et il entendait au-dessus de lui un curieux méli-mélo de sons furtifs et étouffés. Il ne pouvait pas bouger sans trébucher sur quelque chose et, à chacun des bruits qu'il faisait, les sons provenant d'en haut semblaient lui répondre. C'était une vague agitation accompagnée de frottements rappelant du bois glissant sur du bois. Un moment, il toucha de ses mains tendues le sommet vide d'un pilier en pierre. Plus tard, il se rendit compte qu'il gravissait à l'aveuglette une échelle scellée dans un mur, vers un lieu où la puanteur se faisait de plus en plus intense et d'où il sentait un souffle brûlant qui menaçait de le calciner. Devant ses yeux jouait un kaléidoscope d'images fantasmatiques qui, à intervalles réguliers, se dissolvait dans les vastes ténèbres d'abysses inexplorées, où tourbillonnaient des soleils et des mondes d'une noirceur plus profonde encore. Il repensa aux antiques légendes qui évoquaient le chaos ultime, au centre duquel se prélasse Azathoth, le dieu aveugle et idiot, seigneur de toutes choses, entouré de sa horde de danseurs amorphes et sans esprit, bercé par la grêle mélodie d'une flûte démoniaque tenue par des pattes innommables. Ce fut alors qu'un rappel brutal du monde extérieur brisa la torpeur du jeune homme et le mit face à l'horreur indicible de sa situation. Il ne sut jamais de quoi il s'agissait. Peut-être était-ce l'explosion tardive d'une fusée de l'un des nombreux feux d'artifice que les habitants avaient tirés tout l'été sur Federal Hill, dans le but d'attirer l'attention de leurs divers saints patrons ou ceux de leur village natal en Italie. En tout cas, Blake hurla, descendit en toute hâte de l'échelle et traversa en trébuchant le sol encombré de la pièce plongée dans le noir presque absolu. Il sut tout de suite où il se trouvait et dévala l'étroit escalier en colimaçon au risque de se rompre le cou, heurtant les parois à chaque tournant. Ce fut une fuite cauchemardesque, sous cette vaste nef envahie de toiles d'araignée dont les voûtes fantomatiques se dressaient jusqu'à des royaumes d'ombres ricanantes. Une traversée aveugle du cellier jonché de débris, une remontée à l'extérieur vers l'air pur et les lumières de la rue, une folle course en bas de cette colline spectrale où les pignons des toits lui susurraient leurs secrets, par une cité silencieuse et revêche de hautes tours noires, et enfin l'ascension à l'est du précipice abrupt qui le ramena à l'antique porte de son logis. Quand il reprit conscience le matin, il se retrouva étendu tout habillé sur le plancher de son bureau, couvert de poussière et de toiles d'araignée. Chaque centimètre de son corps meurtri lui faisait mal. Quand il se regarda dans une glace, il remarqua que ses cheveux étaient légèrement brûlés par endroits, tandis que les relents d'une étrange pestilescence n'appartenant pas à ce monde paraissaient imprégner de façon presque imperceptible le haut de ses vêtements. Ce fut alors que ses nerfs le trahirent. Par la suite, constamment épuisé, vêtu d'une robe de chambre, il ne fit guère que rester assis à contempler le paysage par sa fenêtre donnant à l'ouest, frissonner à la moindre menace d'orage et écrire dans son journal des pensées délirantes. La grande tempête éclata le 8 août, juste avant minuit. La foudre frappa sans relâche un peu partout dans la ville, et on signala deux remarquables éclairs en boule. La pluie tomba à torrents, tandis que les incessants roulements de tonnerre tenaient éveillés des milliers de personnes. Blake était fou de terreur à l'idée que l'éclairage urbain puisse tomber en panne. Il s'efforça vers 1 heure de joindre par téléphone la compagnie d'électricité, mais à ce moment, on avait préféré par sécurité couper temporairement les lignes. Il relata tout dans son journal à l'aide d'une grande écriture nerveuse, souvent illisible. Des hiéroglyphes dont l'aspect même témoignait de sa frénésie et de son désespoir croissant, des phrases jetées dans le noir. Il lui fallait garder sa maison obscure pour voir par la fenêtre ce qui se déroulait dehors. Il semble bien qu'il ait passé l'essentiel de 16 heures à son bureau, tâchant avec anxiété de distinguer à travers la pluie, de l'autre côté des kilomètres luisants des toits du centre-ville, la constellation lointaine de lumière qui indiquait la position de Federal Hill. De temps en temps, il écrivait en tâtonnant dans son journal, et on trouve couchées au hasard sur 2 pages des phrases éparses telles que « Il faut que le courant tienne. Il sait où je suis. Je dois le détruire. Il m'appelle, mais peut-être cette fois ne me veut-il pas de mal. » Puis tout s'éteignit sur l'ensemble de la ville. D'après les rapports, cela se produisit à 2h12, mais le journal de Blake ne mentionne pas l'heure. Une note signale seulement « Courant coupé, que Dieu me vienne en aide ». Sur Federal Hill, les habitants partageaient son angoisse, et des groupes d'hommes trempés par la pluie défilaient sur la place et dans les ruelles autour de l'église maudite, munis de bougies abritées par des parapluies, de torches électriques, de lampes à huile, de crucifixes et de toutes sortes d'amulettes telles que l'on en voit fréquemment dans le sud de l'Italie. Ils bénissaient chaque éclair, et effectuèrent de mystérieux signes de la main droite pour exprimer leur crainte quand la tempête se détourna de la ville, entraînant avec elle les éclairs qui se raréfièrent avant de cesser complètement. Le vent se leva et souffla la plupart des chandelles. Une obscurité menaçante s'abattit sur la scène. Quelqu'un alla chercher le père Merluzzo de l'église Spirito Santo, et il vint en hâte sur l'esplanade sinistre prononcer ce qu'il pouvait comme parole réconfortante. À ce moment, plus aucun doute n'était permis, car tous entendaient des sons trahissant une agitation insolite dans la tour noircie de l'édifice. Concernant les événements qui se produisirent à 2h35, nous disposons du témoignage du prêtre, un jeune homme intelligent et cultivé, de celui de l'agent en uniforme William G. Monahan du commissariat central, policier d'une fiabilité sans égale qui avait interrompu un instant sa ronde habituelle pour observer la foule. et enfin de ceux de la plupart des 78 personnes rassemblées près du mur de soutènement de l'église, notamment celles qui étaient sur la place et pouvaient voir la façade de l'église. Bien sûr, rien de ce qui se passa alors ne peut être prouvé comme sortant du domaine naturel. Les causes possibles d'un tel événement ne manquent pas pour l'expliquer. Nul ne peut parler avec certitude des bizarres réactions chimiques susceptibles d'avoir lieu dans un vaste bâtiment ancien, mal aéré, depuis longtemps abandonné et rempli d'éléments hétérogènes. Vapeur méphitique, combustion spontanée, pression gazeuse due à une décomposition prolongée, il a pu suffire d'un parmi d'innombrables phénomènes. Et puis, bien entendu, on ne peut en aucun cas exclure l'hypothèse d'une supercherie. En soi, l'incident fut tout simple et dura moins de 3 minutes montre en main. Le père Merluzzo, homme toujours précis, consulta la sienne à plusieurs reprises. Cela débuta par une intensification indéniable des bruits sourds à l'intérieur de la tour noire. Depuis un moment déjà, une vague exhalaison d'étranges odeurs déplaisantes émanait de l'église. Elles s'intensifièrent et devinrent franchement repoussantes. Il y eut ensuite un bruit de bois brisé, et un gros objet lourd s'écrasa sur le sol juste devant la façade est austère du bâtiment. À présent que les bougies étaient éteintes, on ne voyait plus le clocher, mais avant que la masse percute le parvis, les gens reconnurent l'abat-son couvert de suie de la fenêtre est de la tour. Aussitôt après, une puanteur proprement insupportable assaillit depuis les invisibles hauteurs les spectateurs frissonnants, les faisant suffoquer et leur donnant la nausée. Chacun en resta un instant quasi prostré. Au même moment, l'air trembla comme sous la vibration d'un puissant battement d'ailes, et une soudaine bourrasque soufflant vers l'est, plus violente que toutes celles de cette nuit-là, arracha les chapeaux et les parapluies ruisselants de l'assemblée. On ne pouvait distinguer grand-chose dans cette obscurité dénuée de bougies, mais certains témoins qui regardaient alors en l'air disent avoir peut-être vu passer dans le ciel d'un noir d'encre une grande masse d'une noirceur encore plus dense. Cela ressemblait à un nuage informe de fumée qui s'éloignait vers l'est à la vitesse d'un météore. Ce fut tout. Les gens, plus ou moins paralysés par l'effroi, la stupeur et l'inconfort, ne savaient ni quoi faire, ni même s'il y avait quelque chose à faire. Ignorant ce qui s'était produit, ils ne relâchèrent pas leur surveillance et, quelques instants après, adressèrent une prière au ciel détrempé quand ce dernier s'illumina d'un éclair tardif mais intense, auquel succéda un coup de tonnerre à briser les tympans. Une demi-heure plus tard, la pluie cessa, et après encore un quart d'heure, l'éclairage urbain revint, renvoyant dans leur foyer les spectateurs éreintés et trempés, mais le cœur plus léger. Les journaux du lendemain évoquent ces faits sans s'y attarder, au milieu des récits en rapport avec la tempête. Il semble que ce dernier éclair particulièrement lumineux et l'explosion assourdissante qui suivirent les événements de Federal Hill se soient manifestés de manière plus retentissante encore, loin à l'est, où l'on remarqua en outre qu'ils s'accompagnèrent d'une puanteur insolite. C'est au-dessus de College Hill que le phénomène fut le plus marqué. Le fracas réveilla tous ceux qui dormaient et donna lieu aux conjectures les plus folles. Parmi les habitants debout à ce moment-là, seuls quelques-uns virent l'illumination anormale qui se produisit non loin du sommet de la colline, ou s'étonnèrent de l'inexplicable bourrasque ascendante qui faillit arracher les feuilles des arbres et déracina les plantes dans les jardins. Tous pensèrent que cet éclair isolé avait dû frapper quelque part dans le voisinage, même si, par la suite, on ne retrouva aucune trace d'impact de foudre. Un jeune homme dans la maison de la fraternité Tau Omega crut distinguer une hideuse et grotesque masse de fumée dans l'air au moment de l'éclair, mais nul ne put confirmer cette observation. Les quelques personnes présentes, cela dit, s'accordent sur la rafale venue de l'ouest et l'intolérable puanteur qui précédèrent cette foudre tardive, et les témoignages se révèlent tout aussi unanimes concernant l'odeur de brûlé perçue juste après, qui ne dura guère. Ces faits furent établis avec le plus grand soin à cause de leur lien probable avec la mort de Robert Blake. Des étudiants dans la maison Psi Delta, dont le dernier étage à l'arrière a vu sur le bureau de l'écrivain, remarquèrent de loin un visage blême derrière la fenêtre ouest, le matin du 9 août, et trouvèrent quelque chose d'anormal à son expression. Quand, le soir venu, ils distinguèrent le même visage dans la même position, ils s'alarmèrent et surveillèrent l'appartement de l'écrivain pour voir s'il allumait la lumière. Plus tard, ils sonnèrent à la porte de l'appartement toujours plongé dans l'obscurité et finirent par appeler un agent de police pour qu'il enfonce la porte. Le cadavre raidi était assis bien droit à son bureau, face à la fenêtre. Quand les intrus virent ses yeux vitreux et exorbités, ses traits convulsés témoignant d'un effroi absolu, ils se détournèrent stupéfaits, très mal à l'aise. Peu de temps après, le médecin légiste examina le corps et, en dépit de la fenêtre intacte, diagnostiqua comme cause du décès un choc électrique, ou bien un accès d'hypertension nerveuse dû à une décharge électrique. Il ne tint aucun compte de l'affreuse expression sur le visage du mort, qu'il considérait comme le simple résultat du terrible choc qu'avait dû subir une personne trop émotive et douée d'une imagination morbide. Ces particularités du caractère de Blake, il les avait déduites des livres, peintures et manuscrits trouvés dans l'appartement, ainsi que des notes griffonnées en aveugle dans le journal intime posé sur le bureau. L'artiste avait écrit avec frénésie jusqu'au dernier moment, et en trouva son crayon à la mine brisée dans sa main droite, contractée par un ultime spasme. Les fragments écrits pendant la coupure de courant étaient très décousus, et en partie illisibles. Certains enquêteurs en ont tiré des conclusions divergeant sans équivoque de la version matérialiste officielle, mais leurs hypothèses n'ont guère de chance de trouver un écho chez les esprits terre-à-terre. L'initiative du superstitieux docteur Dexter, qui a jeté dans le chenal le plus profond de la baie de Naranjalset la boîte étrange avec sa pierre anguleuse, minérale effectivement phosphorescente, découverte dans l'obscurité de la flèche aveugle de l'église, n'a pas aidé la cause de ces imaginatifs théoriciens. L'interprétation dominante de ces ultimes phrases frénétiques demeure l'imagination excessive et la névrose maladive de Blake, aggravée par sa connaissance du maléfique culte disparu dont il avait découvert de si étonnants vestiges. Voici ce qu'il écrit, ou du moins ce que l'on peut en déchiffrer. L'électricité est toujours coupée. Cela doit faire 5 minutes. Tout repose sur la foudre. Yadith veuille qu'elle continue. On dirait qu'une influence le combat. Pluie, tonnerre et vent assourdissant. L'être s'empare de mon esprit. Trouble de mémoire. Je vois des choses dont je n'ai jamais rien su. D'autres mondes, d'autres galaxies. Noir. La foudre paraît noire. Le noir lumineux. Ce ne peut être ni la véritable colline, ni la véritable église que je vois dans ces ténèbres totales, mais l'impression rétinienne laissée par les éclairs. Le ciel fasse que les Italiens soient dehors avec leurs bougies si la foudre s'arrête. De quoi ai-je peur? Ne s'agit-il pas d'un avatar de Nyarlathotep qui, dans l'antique et ombreuse Kem, prit même forme humaine? Je me souviens de Yugot, puis de Chagai, plus loin encore de l'ultime vide des planètes noires. Le long vol dans le vide porté par les ailes. Impossible de franchir l'univers de la lumière. Recréé par les pensées saisies dans le trapézoèdre luisant. Propulsé dans les atroces abysses de clarté. Je me nomme Blake, Robert Harrison Blake, de 620 East Capt Street, à Milwaukee, dans le Wisconsin. Je suis sur Terre. Azathoth, aie pitié! La foudre n'éclate plus, affreux! Je vois tout par un sens monstrueux qui n'est pas la vue. La lumière est noirceur et la noirceur lumière. Ces gens sur la colline, ils gardent. Les bougies et les allumettes, leurs prêtres. Sens des distances disparues. Près et loin est près. Pas de lumière, pas de jumelles. Vois la flèche, la tour, la fenêtre. J'entends Roderick Usher. Suis fou ou deviens fou. L'être s'agite et se déplace à tâtons dans la tour. Je suis lui et moi, je veux sortir, dois sortir et unifier les forces, il sait où je suis. Je suis Robert Blake, mais je vois la tour dans le noir, je sens une odeur affreuse, mes sens sont transfigurés, L'abat-son à la fenêtre de la tour craque et cède. Ya-ing-ga-ing-ing. Je le vois. Il vient ici. Vent infernal, bleu titanesque, aile noire. Yog-Sothoth, sauve-moi. L'œil brûlant aux trois lobes.